Vous écoutez France Culture. Bonjour, le mois de juillet touche à sa fin, mais pas l'année 2014 qui vit depuis janvier au rythme des commémorations. De la Grande Guerre à la libération de Paris, variation ce midi autour de la mémoire. Avec le photographe Raymond Depardon, parrain de l'exposition sur les monuments aux morts, aux rencontres photographiques d'Arles. Avec Catherine Tambrin, commissaire de l'exposition Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé. Au musée Carnavalet. Et en éclaireur, l'historien Jean-Noël Jeannonet. Il sera également notre invité fil conducteur jusqu'à 14h. Sans oublier les habitués de cette grande table d'été, à première vue, Aude-Lavigne a demandé au plasticien Jean-Michel Autoniel quelle œuvre est à l'origine de sa vocation d'artiste. Et puis les lives de Mathieu Conquet, vous entendrez Kezia Jones pour Memory et Rocky avec Chase the Cool. Venez, installez-vous autour de notre grande table d'été. Vous écoutez bien France Culture. Et on ouvre cette heure en musique avec un premier live programmé par Mathieu Conquet dans le cadre des sessions du rendez-vous. Le chanteur et guitariste Kezia Jones dans nos studios avec Michael Désir à la batterie et Fred Dupont au clavier. C'est Memory, extrait de son sixième album, Captain Rigid, paru chez Bicureuse Music, un super-héros du quotidien qui parcourt les rues de Lagos. extrait de l'album Captain Ridged. Kezia Jones sera en concert le 1er août au Festival du Bout du Monde à Crozon, le 2 août aux Escales de Saint-Nazaire, le 7 au Festival Fiesta 7 et le 9 au Festival de la Petite Pierre.
La Grande Table, c'est aussi l'été avec Olivia Gesbert.
La Commune, ses enfants morts pour la France. Pour les participants, il fallait réaliser 3 photos exploitables en évitant les contre-jours, en plan large, plan resserré, en replaçant aussi le monument dans son environnement. Ces photos ont ensuite été collectées depuis début février en lien avec les municipalités. Et puis 3 mois plus tard, voilà le résultat, plus de 10 000 photographies de 4 800 monuments aux morts. Elles ont été reçues à Arles, puis sélectionnées par les organisateurs de ces rencontres. En partenariat avec la mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, les rencontres d'Arles exposent cette année des photographies de monuments aux morts. Plus d'1 300 000 morts pour la France, leur nom gravé dans la pierre, porté aux yeux de tous. Un travail photographique, une œuvre de mémoire, le premier recensement dans l'histoire. Parrain de cette exposition, le photographe et réalisateur Raymond Depardon. Bonjour.
Bonjour.
Raymond Depardon, dont les photos de France ont fait l'objet d'un livre, d'une exposition à la BNF en 2010 et d'un catalogue réédité l'an passé au Seuil. À vos côtés, Jean-Noël Jeannenet, bonjour.
Bonjour.
Historien, producteur de Concordance des temps sur France Culture et président des Rencontres, auteur de Jours de guerre avec Jeanne Guérou aux éditions Les Arènes. Raymond Depardon, en parcourant la France, en photographiant les villages, vous avez réalisé, vous aussi, des clichés de ces monuments qui sont aujourd'hui exposés à Arles. Ça n'a jamais été l'unique intention de vos photoreportages, ni la finalité d'une de ces balades en France. Et pourtant, vous êtes parfois arrêté devant certains de ces monuments. Alors pourquoi certains et pourquoi pas d'autres ?
Ben c'est vrai que ces monuments font tellement partie d'une certaine France, pas toute la France, hein, parce qu'effectivement à Paris, je ne sais même pas où il est, et s'il y en a, on m'a dit qu'il n'y en avait pas par arrondissement, mais c'est assez difficile à les trouver dans les grandes villes. Mais ces petits villages de cette France dont je me suis un petit peu penché entre 2004 et 2010... cette France des sous-préfectures, un peu comme ça. C'est vrai qu'ils étaient là, ils font partie. Il y a des moments où on n'en peut plus, on ne veut pas les voir, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont magnifiques. Et puis aussi, on se dit quand même, ces gens-là, ça porte beaucoup de noms. Plus on va dans des villages petits, d'ailleurs, plus il y a du monde, souvent, en Corse, tout ça. Beaucoup d'endroits ruraux, quoi, tout ça. Et on voit qu'il y a eu une hécatombe énorme, quoi. On est obligé quand même... Moi, je suis né en 42, donc je ne peux pas être contemporain de... On se dit, mais... Je crois que c'est 40 ou 50 morts par monument. Donc, ces petits villages ont défendu, quelque part, cette grande guerre. Et on est forcément obligé d'être un petit peu concerné. Et moi, c'est vrai que comme je faisais de cette France profonde, je suis tombé sur des monuments morts. Je me suis dit, stop, il faut faire la photo. Notamment à Rimez, par exemple, dans la Lozère, où il y avait du granit, et toute la ville est granit, et le monument est granit aussi. Et puis aussi, il y a des incontournables. Il y a celui de Mayol à Céret. Et puis, il y en a comme ça, dans le nord ou dans le sud. Et puis, alors, il y a des poilus, puis il y a d'autres choses aussi. Il y a la République, il y a la Marianne, il y a d'autres choses. Et donc, il y a une variété incroyable. Nous, on en a retenu une douzaine. Bien sûr, ça ne fait pas beaucoup sur 4-5 ans de travail. Mais je trouve comme ça, bon, je me dis maintenant que, voilà, c'est une histoire qui fait partie de notre culture, de notre terre natale. Et je pense que c'est bien aussi de réfléchir un peu à cette guerre qui a été quand même un peu terrifiante. Tous les jours, quand même, on en apprend tout le temps des petites informations. Moi, je me souviens que quand j'étais en Corse, on m'a dit « Regarde bien les monuments morts en Corse. Tu vas voir la liste hallucinante de personnes qui... des petits villages de rien du tout, il y a 50 à 100 personnes, quoi. » Et aussi la Bretagne aussi. Et puis, il y a, par exemple, il y a ce fabricant de cartes postales qui s'appelle Sim, et c'est Monsieur Combier. Et le petit-fils a tombé, et s'est tombé sur une photo. C'est une photo extraordinaire, quoi. Parce qu'il y a eu des exécutions pendant des ceux qui ont déserté, soi-disant déserté, pendant la guerre de 14, vers 16-18. Et il y a eu une ou deux photos de fête de ces exécutions, et qui sont des documents aujourd'hui qu'on n'a jamais vus, qu'on ne voit pas. Donc, en fait, on s'aperçoit que par la photo, on revient un peu sur des événements qui sont notre histoire. au fond, et qui sont pas, voilà, même si on dit plus jamais ça, bien sûr.
Jean-Noël Jeannelet, avant d'en venir au sens de ces monuments aux morts, au sens aussi de cette exposition, la mémoire, l'idée de commémoration, la place qu'ils occupent aujourd'hui dans nos villes et nos villages, est-ce qu'on peut s'attarder un moment sur l'édifice et sur ces nombreuses photographies que vous avez reçues aux rencontres d'Arles, après cet appel à collecte, à envoi des photographies qui ont été aussi réalisées pour beaucoup par des amateurs. Qu'est-ce qu'elles nous montrent, toutes ces photographies? Quel type de monument? Des poilus fiers, des veuves et des orphelins? On a beaucoup d'allégories de la victoire, de simples stèles. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces monuments aux morts?
Ils ont beaucoup à nous dire sur les sensibilités françaises et sur le travail de la mémoire après cet événement épouvantable de 1914-1918. Et il nous est apparu, je parle de François Hébel, directeur des rencontres de la photographie d'Arles, et moi-même, il nous est apparu que si Raymond Depardon voulait bien avec nous travailler, parrainer cette entreprise, alors il serait passionnant, effectivement, à cette occasion, et grâce aux possibilités d'Internet nouvelles, d'essayer de faire une sorte d'inventaire de tout ce que la terre de France, les 38 000 communes de France, portent à cet égard, et de considérer ce qu'ils ont à nous dire. Je suis très frappé d'abord par le nombre des réponses, ce qui veut dire que, contrairement à ce que pensent un certain nombre d'esprits chagrins ou goguenards, notamment à Paris, il y a en profondeur dans cette France, il y a en profondeur aujourd'hui une volonté de s'intéresser à ce qui fut. Et vous savez, ce sont très souvent les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants qui font ressurgir cette mémoire. Parce que parfois, les combattants n'ont pas voulu trop longtemps parler à leur immédiate descendance. C'est une première donnée qui me paraît majeure. L'intérêt...
Peut-être aussi, Jean-Noël Jeannelet, parce que ces monuments aux morts ont été construits assez rapidement après la guerre. On n'a pas attendu un passé récent pour commencer à rendre hommage et entretenir la mémoire de ces morts pour la France. Donc, beaucoup de monuments aux morts existent aussi dans le paysage des Français. Dans les paysages des communes depuis des décennies.
Vous avez raison de le dire. En gros, on a commencé de les bâtir à partir de 1922 et cela a duré une dizaine d'années. Mais ce qui est très remarquable, et vous posiez cette question il y a un instant, c'est de voir la diversité des significations de ces monuments. Parce que on peut dire que les communes ont été extrêmement libres de choisir les sculpteurs, le lieu d'emplacement qui est fort parlant.
Ça peut être la place de l'hôtel de ville, de la mairie, la gare,
auprès de l'école. Près de l'église, dans les communes qui étaient marquées par plus de croyances et de pratiques religieuses. Il y a donc le lieu, et puis il y a la thématique, et cela c'est tout à fait passionnant. Et ce que nous venons de percevoir en rassemblant ces milliers de photographies qui nous ont été envoyées selon le protocole que Raymond Depardon a bien voulu dessiner, c'est une confirmation de ce qu'un certain nombre d'historiens avaient déjà discerné voici plusieurs décennies. Je pense en particulier, il faut le citer, en l'occurrence à Antoine Pro, qui est aujourd'hui président du conseil scientifique de la mission du centenaire, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Il a été le premier, et quand on rencontre ses enfants, ils disent que toutes leurs vacances se sont passées à aller de ville en ville à photographier déjà des monuments. Il a été un des premiers à essayer de voir quelle était l'iconographie. Et il a mis en place très clairement, notamment dans une contribution au lieu de mémoire de Pierre Nora, il a expliqué quelle était la largeur de l'éventail des significations. D'un côté, l'extrême du patriotisme, un peu ostentatoire, le coq, la couronne de la victoire, les lauriers, etc., minoritaire. Et de l'autre côté, des monuments qui sont très franchement antimilitaristes. Il y a notamment un monument aux morts qui est resté très célèbre parmi nous, historiens, c'est celui de Jean Sioux, dans la Creuse, où on voit un petit garçon qui tend le poing vers la liste des morts et qui dit « maudite soit la guerre, maudite soit la guerre ». Il y a donc ces deux extrêmes. Et puis entre les deux, beaucoup, beaucoup de variantes patriotiques, également ce que Pro appelle funéraire, simplement le chagrin. Et puis ce qui domine, c'est vraiment le deuil, c'est le deuil. On voit beaucoup de piéta, vous savez, ces femmes, ces mères, ces épouses qui sont penchées vers vers le soldat mort et qui souvent même le portent dans leurs bras. D'abord la douleur, d'abord le deuil. Ceux qui sont marqués par un esprit que je dirais de cocorico sont extrêmement minoritaires en réalité. Et cela exprime de façon tout à fait intéressante ce qu'a pu être la sensibilité de la France profonde dans ces années 20 et 30 commençantes. C'est-à-dire l'idée que vous venez d'évoquer, Raymond Depardon, c'est-à-dire l'esprit de fin de la guerre. Non pas mort à la guerre, mais et puis d'autre part, ce qui frappe, c'est que ceux dont les noms sont inscrits, innombrables en vérité, beaucoup de villages où il y a eu 60% des hommes entre 20 et 40 ans qui sont morts. Ce qui frappe, c'est qu'il y a toujours un refus dans la liste d'une hiérarchie selon les grades. Alors, ou bien on offre la liste de façon alphabétique, ou bien selon la date de la disparition. Ce qui nous rappelle une chose très importante et qui mérite d'être dite aujourd'hui, c'est que tous ces combattants ne se sont pas vus comme des militaires. Ils se sont vus comme des civils provisoirement sous l'uniforme et chargés de porter une défense, cette guerre défensive, une défense de la patrie. Nullement des gens qui ont, en quelque sorte, qui auraient fait les malins. Non, c'est vraiment pas ça. Et je crois que ces monuments, à cet égard, sont tout à fait passionnants à déchiffrer. Je pense qu'à Arles, en voyant rassembler ceux que nous montrerons, on en aura une conscience aiguë.
Raymond Depardon, vous qui avez vu ces photographies, une partie de cette sélection des photographies envoyées consacrées aux monuments aux morts, justement, on évoquait les différentes représentations sur ces monuments, lesquelles ont marqué votre regard de photographe. Soit parce que la photographie était bonne ou parlante, soit parce que ce qui était représenté dessus vous a intrigué ou surpris.
Et jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu comme ça un inventaire aussi important de France. J'avais beaucoup rencontré plusieurs photographes qui ont fait des travaux régionaux sur des départements. Voilà, il y a eu des inventaires comme ça sur le Loiret, sur certaines régions, mais jamais au niveau national. Et donc c'est vrai que moi j'ai parcouru la France là comme ça pendant 6 ans et j'en ai vu de partout. Alors il y en a qu'on les voit pas parce qu'ils sont un peu discrets, puis il y en a d'autres qui sont très très importants, qui sont au milieu de la place. J'imagine que personne sait quoi en faire, mais on n'y touche pas. Et puis, il y a aussi, surtout, là, ça va être la révélation aussi d'un aspect que je ne m'en doutais pas, c'est l'outre-mer. Il y en a un de Saint-Denis-la-Réunion, là, mais qui est une merveille. Enfin, je veux dire, c'est un truc... Il est au milieu d'une végétation rose avec des bougainvilliers, enfin, etc. Et il est peint en jaune, en bleu. Et il est là, comme ça, à Saint-Denis-la-Réunion. Et bon, voilà, ça donne aussi une dimension de toutes ces troupes là, qui sont venues de l'étranger... aussi défendre ce territoire français, la métropole, parce qu'on oublie ça un peu, bien sûr, parce qu'on a tendance à penser qu'à la métropole. Mais il y a aussi toutes les terres d'outre-mer.
Il y a d'ailleurs au Sénégal, à Dakar, une statue de Blaise Diagne, qui a été le commissaire chargé notamment par Clémenceau de rassembler des troupes coloniales, ce qui indique la complexité, effectivement, à cet égard, de la collaboration des troupes coloniales à la défense de la France métropolitaine.
Et c'est vrai que le cinéma, par exemple, on voit bien qu'il y a eu un vrai tabou, parce qu'il a fallu le film de Kubrick, un des premiers films, moi je m'en souviens, Les Sentiers de la Gloire, là, avec Kirk Douglas. Il y a eu très peu de films sur l'épisode. Après, il y en a eu commencé à en avoir plusieurs, mais il y a très peu de films. Et pourtant, ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'il y avait la photo quand même là déjà. Et il y avait même des concours. Parce qu'il se trouve que mon grand-père, Marius Depardon, qui a fait la guerre de 14, m'a laissé, c'est la collection de miroirs. Et la collection de miroirs, quand vous la feuilletez comme ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il n'y avait que des pages en disant « Envoyez vos photos, vous toucherez tant ». La meilleure photo. Donc, en fait, les photos, il y avait plein de photographes qui étaient dans les tranchées. On voit, imagine déjà ces tranchées en hiver ou dans la boue, et avec leur appareil photo, qui n'étaient pas des Leica à l'époque. Ils faisaient des photos de leurs copains, des combats et tout. Il y a alors, ces photos, où sont-elles? On ne sait pas bien parce qu'elles ont été retouchées, le négatif a dû être perdu. Donc, il y a effectivement, là aussi, encore énormément d'images. En fait, et puis il y a les caméramans professionnels qui ont filmé et on a vu apparaître 2-3 images un petit peu là, notamment un combattant qui porte un autre combattant, un soldat, sur son dos. C'est une image qu'on n'avait jamais vue, c'est une image arrêtée qui nous vient d'un document rare. Donc ça aussi, c'est complètement incroyable. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est une guerre complètement qui est nouvelle parce qu'il y a la photo.
À cet égard, si vous permettez, je suis frappé du fait qu'il faut être très attentif pour interpréter les allégories qui sont souvent très, très ambivalentes. Par exemple, une couronne et même une palme peuvent marquer le deuil et non la victoire. Et puis on se trompe aussi en voyant sur beaucoup de socles de ces statues reproduits les fameux vers de Victor Hugo. Vous savez, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Alors on croit que c'est une sorte de poésie presque chauvine. Et en réalité, quand on regarde cela, on s'aperçoit que Victor Hugo a écrit ses vers en 1831 pour célébrer ceux qui sont morts dans la révolution qui a renversé la Restauration, qui a renversé Charles X. Et par conséquent, c'est l'un des pères de la République qui parle, Victor Hugo. Et c'est la République que l'on célèbre, et non pas je ne sais quelle France cocardière.
Est-ce que toutes les communes de France ont aujourd'hui leur monument aux morts? Et est-ce qu'une commune qui n'aurait pas son monument aux morts, ça veut dire quelque chose? Parce que souvent, ces édifices ont été érigés avec l'argent public, pas par des initiatives privées. Hein.
Non, bien sûr, même si elles ont été entretenues et saluées par des associations d'anciens combattants régulièrement, notamment le 11 novembre. Oui, c'est vrai, je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il n'y ait aucune commune de France qui, sauf celles qui ont été entièrement désertées, parce qu'il y en a quelques-unes, parce qu'il n'y avait plus personne qui y habitait. C'est un cas extrêmement rare. Je ne vois pas de commune de France où il n'y ait pas de monument aux morts. Il y a une autre observation.
Ça peut être une simple stèle, hein, il faut le préciser aussi.
Ça peut être une stèle, il y a toutes sortes de... Oui, une stèle très simple, mais les noms sont toujours inscrits. Et vous observez aussi que les noms de la guerre de 39-45 sont inscrits également, en général, ont été rajoutés. On voit que...
Oui, bien sûr.
Ils sont très, très peu nombreux, même si pendant la Blitzkrieg, il y a eu autant de morts par jour qu'au moment de la Première Guerre mondiale, ce qui amène à réfléchir sur la portée civique de ces monuments par rapport à la guerre et à la paix, puisqu'ils ont crié leur volonté de paix dans les années 20 et que ça a été un désespoir infini de voir que ce n'était pas la guerre des dères, alors qu'on l'a crié à nouveau en 1945-50, et que là, en somme,
il y a même l'Indochine. Il y en a beaucoup qui ont des
morts. Oui, bien sûr, quelques-uns de la guerre d'Algérie. Que ça a permis à ce moment-là d'arriver à cette paix européenne qui, en dépit de tous les chaos de l'Union, est pour tous nos enfants quelque chose d'inouï. Il n'y a jamais eu une telle longueur de temps de paix sur notre continent depuis des siècles et des siècles. C'est cela aussi que viennent nous dire les monuments aux morts, me semble-t-il, par le déséquilibre du nombre des morts entre 1914 et 1918, et d'autre part, ceux de la Seconde Guerre mondiale, quelle qu'ait été la somme immense de douleur que celle-ci a pu provoquer.
8 millions d'hommes mobilisés, plus d'un million, 1 400 000 morts pour la France.
14-18, oui.
Pour 14-18. La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent, éternel. Elle est multiple, collective, plurielle et individualisée. Elle s'enracine dans le concret, dans l'espace, le geste, l'image et l'objet. La mémoire est la vie, en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie, tandis que l'histoire est une représentation du passé, une reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus, écrivait Pierre Nora. La mémoire est un absolu et l'histoire ne connaît que le relatif. Est-ce que cette définition, Raymond Depardon, n'interroge pas notre rapport actuel à la mémoire? La mémoire est la vie, la mémoire, écrit Pierre Nora, est actuelle, est un phénomène actuel, contrairement à l'histoire, et à ces lieux de mémoire qui, quelque part, témoignent d'une époque que, vous le soulignez, les moins de 20 ans n'ont pas connue. C'est-à-dire, quel sens peut avoir pour un jeune aujourd'hui ce monument aux morts, ces monuments aux morts?
Alors, c'est vrai que moi, je suis photographe et cinéaste, mais comme photographe, je suis toujours en permanence dans le deuil. C'est-à-dire que j'ai tout le temps en permanence des monuments aux morts derrière moi. Parce que dès que je fais une photo, c'est du passé. Donc dès que je reviens, j'ai l'habitude de faire des allers-retours dans le passé. Ce que je sais, qu'il y a des gens qui ne supportent pas. C'est comme ça. Mais il ne faut pas en prendre ça mal, parce qu'au fond, revenir sur le passé, bien sûr, il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie, mais il ne faut pas prendre ça mal. Moi, je trouve que ces monuments aux morts, aujourd'hui, avec la mémoire, je crois que c'est important. Moi, je sais que moi, c'est en voyant le film de Kubrick, par exemple, que je me suis rendu compte que ça avait été terrifiant, qu'il y avait ce fameux général là, qui avait été épouvantable. Je ne sais pas si je me rappelle plus de son nom, mais tout le monde le connaît. Et il y a quand même des gens qui ont été extrêmement difficiles. Il n'a pas inventé Kubrick. Ce film, on voit là, ils partent à la boucherie, etc. Et donc, je me dis, bon voilà, moi j'ai eu la chance de pas connaître la guerre de mon pays. En tous les cas, j'ai été volontaire pour voir d'autres guerres, et je sais, je suis bien placé pour savoir que c'est pas bien, quoi. C'est terrifiant, et c'est un moment qu'il faut pas connaître. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut pas fuir ce moment-là. On fait beaucoup de jeunisse, tout ça. On entretient beaucoup la télévision, on veut pas trop parler de tout ça, mais il n'y a rien de triste, au fond, dans ces monuments morts. D'abord, en plus, ils sont en couleur, souvent, pour les trois quarts. On les voit toujours un peu tristes et morts, noirs, en bronze, rouillés, ou je ne sais pas quoi, etc. C'est pas vrai, il y en a beaucoup. Alors, ça dépend un peu des mairies, il y en a qui les repeignent un peu. Et c'est vrai qu'on voit aussi cette folie de ces costumes, parce qu'on voit les poilus qui partaient en bleu, en rouge, c'est incroyable, parce que la tenue camouflée n'existait pas à l'époque. Et moi, j'ai pas l'impression que, je sais pas, à chaque fois, je regarde quand même quelque part, je regarde si je trouve pas quelqu'un que je connaîtrais, le nom que je connaîtrais. Voilà, il y a quelque chose aussi de profondément, d'une quintessence. De la quintessence d'où on vient, voilà. D'où on vient, ça veut pas dire qu'on... j'ai fait une exposition avec Paul Virilio sur la terre natale. Je sais bien que ça n'a rien à voir avec le conservatisme. C'est bien au contraire. C'est au contraire se libérer et de savoir où on est. Au fond, moi, j'ai jamais autant voyagé de ma vie. J'espère que mes enfants voyageaient beaucoup, mais qu'ils sachent un petit peu. Et je crois qu'ils le sont maintenant au courant. Et ça nous rappelle. Ça.
Jean-Noël Jeannonet, oui, ces oui. monuments aux morts sont oui, des monuments savez. De vie pour vous aussi?
Vous savez que dans l'exposition très belle, très intéressante, enrichissante, que la Bibliothèque nationale de France vient de consacrer au premier temps de la guerre, on a mis sur un mur tous les morts d'une seule journée. Il faut rappeler que dans plusieurs journées de la fin du mois d'août 1914, sont morts chaque jour, l'équivalent d'une ville comme Blois. Et quand on voit tous ces noms côte à côte, on prend conscience par cette sorte de mosaïque sinistre de ce que cela a pu vouloir dire.
Mais aussi, quand même, je voudrais insister sur une toute petite chose. C'est moi, j'ai eu la chance d'aller à Washington. J'ai vu le monument aux morts des Américains sur la guerre du Vietnam. J'aimerais bien, effectivement, on pourrait imaginer, par exemple, sur la guerre d'Algérie ou sur d'autres guerres, peut-être plus récentes, un monument comme celui de la guerre du Vietnam. C'était un chef-d'œuvre. C'est difficile de dire un chef-d'œuvre pour un monument mort, mais c'est fantastique parce que c'est un architecte chinois, d'origine chinoise, de 22 ans qui l'a fait. C'est un angle droit, comme ça. Et plus on descend, plus il y a de morts. Et puis, tout doucement, on tourne, et là, il y a de moins en moins de morts. La guerre s'arrête tout doucement vers 68-69. Il y a un monde fou. Tout le monde vient. Et les gens qui viennent de toute l'Amérique voir le nom de leurs parents. Donc, je veux dire, un monument mort peut être aussi... Il serait presque souhaitable, quelque part. Je ne dis pas, mais pourquoi pas de faire quelque chose aussi. Voilà, c'est un petit peu triste de ne pas marquer peut-être certaines choses. C'est pas forcément... Je sais pas, il faut exorciser le deuil, il faut exorciser la douleur, et c'est rendre hommage à des gens qui ont souffert. Quoi.
Sur vous cette temporalité, pardon. Oui, Jean-Noël Jeannonet.
Vous m'interrogez sur la mort et la vie. Je pense que c'est à peu près comme la relation entre la guerre et la paix. Intimement lié, parler de la guerre, c'est parler de la paix. Et c'est pourquoi ces monuments aux morts que nous montrons peuvent servir de manière puissamment pédagogique à une réflexion pour les nouvelles générations sur ce qui est arrivé, sur le buissonnement des potentialités diverses qui se sont manifestées avec l'éclatement de cette guerre en 1914-18 ou 1914. Ça n'était pas inscrit dans les astres. On aurait pu l'éviter comme citoyen, comme homme d'État. Par conséquent, je pense que ça n'est pas sinistre, comme vient de le dire, c'est sombre, naturellement, c'est tellurique, mais comme vient de le dire Raymond Depardon, ces monuments ne sont pas sinistres parce qu'ils permettent de réfléchir peut-être à plusieurs questions que nous laisse entrevoir la guerre de 14-18. Je veux dire, comment on est arrivé là? Comment on aurait pu ne pas en arriver là? Et puis ensuite, quelles sont les relations entre les civils et les militaires? Quelles sont les relations, je parle à une journaliste, entre les médias et la réalité? Comment ils ont évolué entre la nécessité patriotique de dissimuler un certain nombre de choses et leur vocation centrale qui est de servir la véracité? Tout ça, c'est la vie. Tout ça, c'est l'avenir. Et finalement, parler des monuments aux morts, c'est aussi parler de l'Europe. Et si la vie est quelque part, c'est précisément, parfois tremblotante, c'est précisément dans l'Europe que nous construisons.
Et ce sont aussi des monuments en vie, dans le sens où on y investit, chacun, chaque personne qui passe devant, y investit quelque chose d'assez personnel, finalement, hein, dans ce rapport à la mémoire. Et c'est cette temporalité aussi qui est intéressante. Ce sont des lieux de mémoire et en même temps des lieux du présent.
Oui, une eurodéputée, Sylvie Goulard, avait proposé que tout le Parlement européen nouvellement élu vienne à Verdun, devant les monuments aux morts, ou enfin, quelque part du côté du Haut-Mont, pour exprimer précisément, encore une fois, le plus jamais ça, mais un plus jamais ça, plus efficace qu'en 1920 ou 1930.
D'où ce choix de leur rendre hommage à Arles, jusqu'au 31 août, Jean-Noël Genallet.
Oui, nous avons veillé, comme je le disais, à ce que le centenaire puisse être présent dans nos rencontres de la photographie d'Arles. Et je crois que, de ce point de vue-là, la complicité de Raymond Depardon a été absolument essentielle pour les raisons qu'il vient d'exprimer lui-même.
Et puis, c'est aussi un clin d'œil à la photographie amateur à travers ça. Parce que la majorité des photos, la très très grande majorité des photos, même si on en retrouvera certaines de vous aussi, Raymond Depardon, sont des photos amateurs envoyées par des Français suite à l'appel qui a été lancé.
Là, on rencontre la formidable ambivalence de la photographie en marche, puisqu'elle couvre un immense éventail depuis des créations les plus esthétiquement les plus admirables, jusqu'à la pratique quotidienne de nos petits téléphones portables. Et il n'y a pas, je sais bien, quelquefois, il y a des peintres du dimanche, mais je ne vois guère dans le domaine des arts l'équivalent. Et c'est à la fois très, très ambigu, très, très complexe et finalement très stimulant pour tout le monde. Et du point de vue qui nous occupe aujourd'hui et qui vous occupe dans cette émission, c'est-à-dire rendre compte des monuments aux morts, de ce point de vue-là, je crois que les choses sont très, très parlantes quant à cette richesse formidable de la photo dont les rencontres de la photographie s'efforcent de rendre compte du côté du plus beau, mais en respect pour le plus quotidien.
Oui, puis il y a les noms des gens et puis il y a aussi les noms des villages. Et ça, tout ça, déjà, ça fait partie de quelque chose qui est complètement extraordinaire. Tous ces noms de villages qu'on nous a complètement oubliés et qui sont assez, assez étonnants. Et puis les noms des gens. Il faut regarder les noms. Il faut regarder les noms. C'est incroyable, ces noms. Et voilà, c'est très moderne, au fond, dans une quelque part.
Alors, si on veut pouvoir en voir plein de monuments aux morts, tous réunis au même moment, donc il faut aller se balader à Arles dans le cadre des rencontres jusqu'au 31 août. L'exposition Monuments aux morts est à voir à l'église des Frères Prêcheurs.
Le passé est moderne.
Le passé est moderne. Jean-Noël Genallet, ne bougez pas. Raymond Depardon, ne bougez pas non plus. Tout de suite, un acteur majeur de l'art contemporain, une œuvre, un déclic. C'est à première vue signé Aude Lavigne.
Jean-Michel Autoniel est artiste plasticien. Il aime les métamorphoses qui s'impriment dans ses sculptures aux matériaux réversibles. Les couleurs habitent son monde aux multiples aspects. Des œuvres qui s'inscrivent dans le paysage comme un ornement magique et vivant à la fois. Au téléphone, Jean-Michel Autoniel répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain? À première vue, Jean-Michel Autoniel répond.
En fin de compte, moi j'ai la chance d'être né dans une ville où il y avait un musée d'art contemporain extraordinaire, qui est le musée de Saint-Étienne à la fin des années 70, où de nombreux artistes sont intervenus, donc venant pas du tout d'une famille d'artistes. J'ai pu voir, je me souviens très bien, la première exposition que j'ai vue, c'était une exposition de Robert Morris, qui est cet artiste minimal, donc qui fait des grandes choses en feutre. Et j'ai un souvenir très très précis de cette exposition et surtout de cet espace, je dirais, de liberté qu'il avait pu créer. Et je ne savais pas que je deviendrais artiste, mais j'ai tout de suite eu envie de me rapprocher, je dirais, du monde de l'art, comme on l'appelle, parce que, justement, il y avait cette grande liberté et cette grande joie, puisqu'à l'époque, les œuvres de Robert Morris, c'était des œuvres dans lesquelles on pouvait se lever, rentrer, une sorte de caverne en feutre, comme ça. J'ai découvert bien après que c'était, en fin de compte, d'énormes vagins en feutre gris qui étaient accrochés au mur, mais c'est vrai qu'il y avait cette idée de jeu et de joie qui m'a vraiment, je dirais, sorti de la grisaille de cette ville de province qui était un peu isolée de tout à l'époque.
Jean-Michel Autoniel, vous aviez quel âge pour cette découverte artistico-sexuelle?
Cette première découverte, je devais avoir 6 ans, je pense. Et après, ça m'a ouvert, je dirais, cette envie d'aller régulièrement au musée. Ce musée étant le seul endroit où on s'amusait, je dirais, dans cette ville. Et puis après, de rentrer aux Beaux-Arts très tôt, vers 10-11 ans. Et puis après, de faire des études artistiques. Et à un moment donné, je dirais que le fait d'être artiste s'est imposé à moi. Voilà.
Robert Morris a 6 ans, donc, Jean-Michel Autoniel. Et par la suite ?
C'est beaucoup, beaucoup plus tard, je dirais que la rencontre avec Félix González Torres a été très importante pour moi, parce que c'est un artiste, je pense, qui a révolutionné les années 90. Donc j'étais déjà un artiste, j'étais déjà dans des galeries. Et cette rencontre avec ce jeune artiste qui est mort très jeune du sida a été, je dirais, fondamentale dans le fait de lier, la beauté au minimalisme et puis aussi le côté radical et engagé quoi de ses œuvres, le côté politique des œuvres m'a beaucoup, je dirais, apporté d'ouverture. Et je pense que c'est le grand artiste des années 90 qui a vraiment révolutionné justement cette approche de ce lien entre le minimal et le sensuel, quoi.
Première vue d'Eau de la Vigne à retrouver sur franceculture.fr. Raymond Depardon, une photo à l'origine, vous, de votre vocation?
Je ne sais pas si c'est une photo. C'est plutôt un film, moi. Je crois qu'à la garderie de l'école de Pont-Bichet, j'ai vu Les Disparus de Saint-Agile, un fameux film dans un... Je ne sais pas, c'est je ne sais pas, peut-être des images. C'est des images que j'ai vues. Mais
pourquoi ce film, quoi, dans ce film? Et c'est peut-être aussi un appareil photo qui a été révélateur de la vocation, non?
C'est assez étrange parce que la photo était à la fois très moderne à l'époque et tout le monde en parlait. On faisait des photos et c'est plutôt une photo. C'est plutôt une photo en noir et blanc que je vois au début, comme ça, une image en mouvement, une photo dans le Progrès de Lyon, une photo chez le photographe, comme ça. C'est un certain nombre d'images qui m'entourent. C'est les premières photos, peut-être, de mes parents, comme ça, avec une marge dentelée, tout ça, des petites photos dans les albums. Ça me fascinait, comme ça. Il n'y a pas vraiment une image particulière, mais
Il n'y en a pas une particulière qui vous a dit un jour, qui vous a murmuré cette photo, je peux faire mieux, autant ou autrement?
Non.
La photo qui murmure à l'oreille de Raymond Depardon.
Non. Non, c'est peut-être, c'était pas très accessible pour moi, voilà. D'ailleurs, mes parents n'ont pas acheté d'appareil photo, ils l'ont acheté à mon frère, et je l'ai emprunté à mon frère, donc voilà. Donc, l'idée, c'est que, on voyait pas d'image à l'époque, peut-être c'est ça aussi, la frustration. Je pense toujours que là, en ce moment, c'est formidable, on peut faire des photos partout, mais il faut rester aussi... L'absence d'image est importante aussi.
Parce même dans les magazines, dans la presse?
À l'époque, mes mêmes parents, ils ne voyaient rien. Ils voyaient pas, ils étaient abonnés à rien du tout. Donc peut-être qu'il y avait le calendrier agricole qu'on voyait comme ça, avec des photos de pin-up sur le truc. Le Progrès, si, peut-être le journal... Il n'y avait pas grand-chose. C'était les photos de publicité qu'on voyait un peu, les affiches comme ça. Mais l'image est arrivée comme ça, un peu mystérieuse, tout doucement. Voilà. Et c'est peut-être ça qui fait qu'elle m'a permis de rêver. Voilà. Je suis assez rêveur, donc j'allais dans les greniers comme ça et je me mettais des idées de faire des... Je prenais un moulin café et je tournais comme une caméra, quoi, voilà. C'était le fantasme du... peut-être de l'absence, du manque, et pas de l'abondance comme on a maintenant. Et je comprends maintenant, on a une telle abondance avec l'image, mais du coup, l'image n'est plus du tout rêvée, n'est pas fantasmée. Et moi, je l'avais parce que j'avais tellement peu d'images que je pouvais en fantasmer sur ça, sur des quelques films ou quelques photos que je voyais à travers la publicité. C'était peut-être ça, l'absence, le manque. Et c'est ça que peut-être qui m'a donné envie de faire ce métier.
Jusqu'à 14h, le photographe Raymond Depardon et l'historien Jean-Noël Jeannonet sont sur France Culture. Catherine Tambrin du musée Carnavalet est invitée à nous rejoindre autour de cette grande table d'été. À suivre, Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé ou les grandes heures de la libération de Paris en noir et blanc. Si je vous dis Rocky, ça vous évoquera sûrement Sylvester Stallone en boxeur, figure du cinéma américain des années 70. Dans la session du rendez-vous programmée par Mathieu Conquet, Rocky est un groupe composé de trois Laurent Pingot, Tom DeVos et Olivier Brugman et une fille, Inès Cocou, venue de Lille et Paris pour conquérir le label de Woodkid. Ils étaient cette année en live dans les studios de France Culture. C'est Chase the Cool.
And if your heels are too high, just clap your hands. And if your pants are too tight, just clap your hands.
your heels are too high. And if your pants are too tight.
Après le Festival de Montreux, ce mois-ci, le groupe Rocky continue sa tournée des festivals. Deux dates, ils seront le 30 août aux Nuits d'eau à Montpellier et le 19 septembre à La Vapeur à Dijon.
Jusqu'à 14h, la grande table d'été. Olivia Gesbert.
Et pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici, chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Du centenaire de la Première Guerre mondiale aux commémorations de la libération de Paris, le musée Carnavalet remonte 70 ans en arrière et reconstitue avec une toute nouvelle scénographie la première exposition consacrée à ce mois d'août 44 qui a ouvert le 11 novembre de la même année. L'exposition 11 novembre 44, Paris est tout juste libéré. Sur d'autres fronts, la guerre, elle, n'est pas terminée. Une exposition imaginée par le conservateur du musée, François Boucher, un résistant pour qui l'histoire n'attend pas. En quelques semaines, il réunit une documentation impressionnante, lui dit indispensable, sur ses heures, ses jours et ses nuits où le destin de Paris a basculé. Indispensable à qui ? À l'historien de l'avenir. Vous voyez, Jean-Noël Jeanneney, déjà, il pensait à vous et à vos confrères. Catherine Tambrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé, qui a débuté en juin au musée Carnavalet. François Boucher tenait la photographie en haute estime et y jugeait son apport considérable. Quelle qualité il lui attribuait, quelle qualité historique, artistique.
Avant lui, Goebbels, en 1933, déjà estime que la photographie est principale à la propagande. Et donc je pense que ces images viennent contrebalancer les images qui ont été diffusées pendant des années et des années. Et à Carnavalet même, nous recevions des images de propagande du service central photographique de Vichy. Nous avons reçu comme ça plus de 2000 images qui sont arrivées pour affichage chez nous. Et comme à peu près 700 autres lieux français qui recevaient ces images pour affichage. Donc il y a vraiment l'idée que la photographie est un outil de propagande et qu'après la propagande qu'on a eue, on va faire une autre propagande, celle de la libération, celle de la France qui se libère par elle-même.
À travers l'image et à travers ces photographies.
Oui, absolument.
Le musée Carnavalet, justement, a fermé aussi hein, pendant une période. Il a rouvert en 1942 pendant l'occupation.
Il ferme d'abord. Le premier musée à rouvrir en 1942. François Boucher est un résistant vraiment de la première heure. Il s'engage déjà en décembre 40. Il va faire partie de deux réseaux de résistance, le réseau Hector et le réseau Jadad Micol. Et puis ensuite, il se camoufle en quelque sorte pour avoir des activités. Il va être arrêté à un moment donné par la Gestapo en 43. On a retrouvé sa fausse carte d'identité, enfin toute son histoire. C'est très intéressant. Et donc, sous couvert d'activités du musée, il demande à tous les services administratifs de leur donner des images, des documentations, etc., qu'il donne après à la résistance. Et donc, tout de suite, quand la libération a lieu, le 7 septembre, vraiment immédiatement après, il fait des annonces via Le Figaro pour demander à ce qu'on vienne lui montrer des photographies. Et il organise cette exposition qui est essentiellement, et ça c'est assez nouveau, une exposition de photographies avec en plus un film qui dure à peu près une demi-heure et que nous avons montré nous aussi dans l'exposition de 2014.
Et ces photographies vont être achetées, ce qui fait qu'on les retrouve aujourd'hui dans le fonds du musée Carnavalet.
Elles appartiennent au fonds. L'idée, c'est vraiment de constituer un fonds contemporain et de faire une exposition contemporaine, très moderne.
Et est-ce que vous parleriez, quand on évoquait les qualités que François Boucher attribue à la photographie, est-ce que vous parleriez aussi d'une confiance
aveugle par moments, parce que 70 ans plus tard, par ce jeu de miroir que vous mettez en scène au musée Carnavalet, vous soulignez aussi les zones d'ombre de cette première exposition et de ces photographies, les grands absents, les oubliés, des clichés de la Libération. Est-ce que tout ça, il le perçoit déjà, François Boucher, en 1944?
Oui, il en joue un tout petit peu, d'ailleurs. Hein. Il construit son exposition, même si elle est construite très rapidement, n'est pas du tout improvisée. On a les dessins de Jean-Denis Malclès, qui est scénographe de notre exposition et qui est un grand scénographe. Et il travaille aussi pour d'autres théâtres. Dans la construction de scénographique de l'exposition, on voit que tout est déjà en place. Donc il y a vraiment aussi un discours politique. Il s'en sert vraiment comme une exposition politique. Enfin, je veux dire, elle dit des choses.
Oui, vous parlez de scénographie patriotique. Hein.
Alors, patriotique, évidemment, on a des coques, on a des représentations comme ça du peuple en armes, etc. Mais dans la construction des panneaux, puisqu'en fait, tout ça a été réparti sur un ensemble de panneaux, c'était 219 photographies. Moi, j'ai réussi à en identifier à peu près 200. Il m'en reste 19 à peu près à trouver, qui n'ont pas été photographiées, je pense. Mais dans l'ensemble de ces images, on voit bien la construction, puisqu'on a pu retrouver vraiment la succession salle par salle. Et on expose, nous, dans la même salle, les mêmes images qu'on a exposées il y a 70 ans.
Et qu'est-ce que l'exposition de 1944 ne montrait pas que vous avez choisi aujourd'hui, en 2014, de montrer?
Alors, elle ne montre quasiment pas l'occupation, par exemple. Nous, on ne peut pas ne pas montrer l'occupation. On est forcé de dire de quoi on se libère. Donc, on va montrer des images de cette période. Et quand lui fait un panneau qui s'appelle « Paris sous l'occupation », si on regarde ces images, premièrement, ce sont que des images des départs des Allemands. Donc, il aurait dû mettre le départ des Allemands et non Paris sous l'occupation. Puis avec une petite tricherie, c'est-à-dire qu'il y a une photo où on voit les musiciens de la Wehrmacht qui défilent. Cette image, il appelle ça la dernière relève. Et en fait, on sait que c'est une image qui date de juillet 40. Donc, des petites astuces, un tout petit peu, pour coller et pour donner une représentation de cette libération qui est conforme à l'idée qu'on veut se faire de cette libération Paris.
Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas montrées aux beaucoup d'autres personnes. Très peu de femmes, par exemple, sur ces photographies. Après... Des périodes qui sont aussi un petit peu occultées, en tout cas des épisodes de cette libération, et notamment les tondus, vous leur accordez un panneau entier, une place quand même aujourd'hui dans l'exposition. Ça, c'était un choix conscient, volontaire, de ne pas montrer ces photographies de femmes tondues pour collaboration.
Et ça, je le sais parce qu'il l'indique dans un petit mot où il dit « Oui, merci beaucoup pour vos images de tondus, mais je ne suis pas certaine qu'elles trouveront de la place dans l'exposition que nous sommes en train de préparer. »
Donc pourquoi? Parce que c'est moins glorieux?
Oui, c'est pas extrêmement intéressant pour eux. Ils ne veulent pas voir ça. Et le film qui est montré, que vous pourrez voir dans l'exposition, qui dure donc une demi-heure, explique à quel point non, on est très très correct même avec les Allemands, on les soigne et on n'est vraiment pas des barbares. Donc il y a une propagande hein, vraiment qui est là. L'absence des femmes, elle, alors déjà les femmes n'ont pas beaucoup d'existence juridique hein, à l'époque, elles votent pas, elles n'existent pas. Et puis, voilà, c'est pas un sujet. Donc on peut les couper, les photographes ne les voient même pas. Les cinéastes, eux, les voient davantage. Alors on peut les retrouver sur les films. Et dans le film, là aussi, on les voit. Mais franchement, dans la photographie, j'en ai pas. Donc même dans l'exposition actuelle, j'ai pas pu en mettre beaucoup. J'ai pu en mettre que quelques-unes. Et vous verrez, il y a des petits macarons qui disent « exposé en 44 » ou « pas exposé en 44 ». Donc vous pouvez savoir si la thématique a été ou pas traitée à cette époque-là. C'est un peu une exposition en tiroir, c'est-à-dire qu'on a essayé d'aller chercher, un, comment ces images sont produites, au sens propre du terme, c'est-à-dire avec quel appareil photo. Bien Donc sûr. Au début, il y a un petit film, parce que c'est important de dire ce que c'est que ces appareils photo. On a, par exemple, des fois, des plaques de verre 10-15 sur verre. On ne photographie pas de la même façon avec un appareil jetable. Donc, vous rentrez dans l'exposition déjà avec une petite vidéo qui vous montre des photographes amateurs ou professionnels en situation. Et puis ensuite, on explique comment des photographes, parfois collaborateurs, travaillent aussi sur la libération parce que voilà, ils ont du matériel. Donc ça, c'est les conditions de production. Ensuite, on regarde les planches contact et qu'est-ce qu'ils ont choisi dans leurs planches contact et qu'est-ce qu'ils ont coupé dans les images. Comment ils ont retaillé, recadré, comment des images soi-disant prises sur le vif bah, quand il y en a plusieurs, on voit bien que la personne a posé. Donc on analyse ce genre de choses. Et puis ensuite, on fait parler dans notre exposition Axel Kahn, qui nous explique comment on mémorise les images, comment ça fluctue notre mémoire, comment les histoires visuelles nous nourrissent. Et puis ensuite, on a demandé à Stéphane Tidet, qui est un artiste contemporain, de travailler sur justement comment ces images nous viennent, puis disparaissent. Et donc, il part de ce fond de négatif 10-15, qui est un fond de plaques de verre, qu'il développe en direct, mais au lieu de les fixer, il les laisse s'effacer. Et donc, il y a cette espèce de sensation comme ça que l'image disparaît et provoque. Et en fait, tout le projet de l'exposition était vraiment de faire dialoguer les gens, c'est-à-dire de les faire parler à la fois de ce qu'ils ont vécu en termes d'héritage, comment ces images leur sont arrivées, etc. Mais aussi de remettre en question ce qu'on voit sur ces images, c'est-à-dire vraiment de ne pas être dupe. Vous parliez de l'absence des femmes. Dans l'exposition de 1944, on montre des jeunes hommes en armes, souvent solitaires, sur des barricades, très beaux, etc. Mais il n'y a pas d'armes à cette période-là. Il y a 500 fusils qui sont lancés sur l'île de France et 800 pistolets. Les seules armes dont on dispose, c'est les armes qui sont prises aux Allemands, donc très peu. Et quand vous regardez bien ces photographies, vous voyez bien que les images des barricades, au premier plan, oui, il y a des armes, mais derrière, il n'y en a plus. Et donc, c'est une construction vraiment, je dirais, romantique de la révolte parisienne.
Et puis, vous évoquiez l'absence des femmes encore à l'instant. Vous racontez aussi dans l'exposition qu'il ne reste finalement dans ce fond immense du musée Carnavalet qu'une seule photo montrant une femme, ou plutôt qu'une seule femme prise en photo, c'est Anne-Marie Dalmazo, photo de cette femme résistante présente dans la collection aujourd'hui du musée Carnavalet. Non, si je dis une bêtise, vous avez le droit de me reprendre.
il y en a deux qui sont restées.
C'est des rares photos de femmes.
Voilà. Très rares. Voilà. Hein, il y a deux photographies qui sont présentées dans l'expo de 1944. Une femme en situation de soins. Bon, le rôle de la femme typique, et une autre femme un peu pittoresque, elle a un casque comme ça, une petite robe à fleurs, un casque allemand, sur une barricade qui est une des barricades qui va faire l'objet aussi d'une analyse dans l'exposition, qui est la barricade de la rue de la Huchette, qui est très bien placée, qui est entre le Sénat et l'hôtel de ville et la préfecture de police. Et donc, évidemment, c'est l'endroit où il faut être, parce que, un, c'est pas très dangereux, c'est pas une barricade, mais elle est pittoresque et bien placée. Et donc, elle va être bombardée par les photographes qui vont se succéder et la photographier. Et c'est avec une de ces images qu'on va faire l'affiche de notre exposition de 1944.
Professionnel ou amateur, Raymond Depardon, le sujet primait sur l'auteur, hein, raconte l'exposition. Néanmoins, s'y détachent quelques grands noms de photographes de la Libération.
Non, c'est la question, c'est que est-ce qu'on va, vous pensez qu'on va retrouver encore des nouvelles photos ?
Alors, nous, le projet, c'était vraiment de rester dans Carnavalet, c'est-à-dire d'accord, de voir comment un fond d'histoire d'accord permet ou ne permet pas de raconter cette histoire-là, c'est-à-dire parler des manques, d'accord, parler des trous, parler de cette absence parfois. Dans l'expo, dans le fond de 1944, par exemple, rien n'évoquait les Juifs, ou les Tziganes, ou les... rien. Nous, on n'a toujours rien sur les Tziganes, sur les gens qui meurent de faim, les déportés. On n'a rien du tout. Donc, c'est vraiment l'idée de voir comment se constitue un fond et comment, à travers ce fond, on peut ou on ne peut pas raconter l'histoire. Donc, dans ces cas-là, on parle à la place des images.
Oui. Non, la question, bien sûr, moi je sais que le Veldiv, il n'y a qu'une photo, bien sûr, parce que les photographes, il n'y a qu'une photo de la rue, d'un immeuble. Il y a des photos, il y a des endroits, il y a des événements qui n'ont pas de photos. Mais c'est vrai que Cartier-Bresson, par exemple, a trouvé dans un carton à chaussures, comme toujours, les photos, on trouve toujours dans des cartons à chaussures, quelque part dans un vieux, au-dessus d'un immeuble, les négatifs vers la rue de Rivoli, d'une des barricades. Mais il n'y a pas très longtemps, dans les années 70. Donc ça veut dire que peut-être qu'on trouvera encore un fond, quelque part, de photographies, comme ça, encore inédites. Je sais qu'il y a une très belle bande son, une bande d'images filmée avec la police devant Notre-Dame, là. Quand ils tirent d'en haut, là, ils visent des Allemands. On voit vraiment les Allemands tomber, tout ça. Il y a une très, très belle séquence de cinéma, là.
Catherine Thomas.
Alors, ce qu'on a fait aussi comme travail, ça a été d'aller rechercher toutes les images animés qui montrent soit exactement les mêmes photographies, enfin le même point de vue des photographies, soit les mêmes personnages à d'autres moments. Par exemple, je pense à des Allemands qui sont faits prisonniers sur nos images. On les a retrouvés dans des films, soit en train de marcher dans les colonnes, soit en train d'être... Donc on a fait ce travail-là qui est un travail un peu... voilà. Et ça, on l'a fait avec le musée Jean Moulin et le musée de la Libération de Paris, le musée Général Leclerc, pour essayer de retrouver justement l'animation, ce qui nous manque et ce qui va parfois nous donner des informations supplémentaires. On découvre des choses. Par exemple, l'image dont vous parliez, qui est Anne-Marie Dalmazo, qui est cette femme qui est en situation de soins. Autour, nous, on a le film, évidemment, où au début, on voit un soldat au sol, un soldat allemand qui se fait tirer dessus. Puis elle arrive, donc quand même dans une situation de danger. Elle prend les armes, puisque ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire, c'est prendre les armes. Puis ensuite, nous, on a la photo. Elle est là en train de soigner cet Allemand. Et ensuite, on la retrouve à la préfecture avec les équipes FFI en montrant son petit brassard, en faisant « Oh, voilà, vous me photographiez !» Je suis tout émue. Donc, on a fait ce travail-là pour justement cerner un tout petit peu au plus près ce qui se passe dans ces images.
Sur ces grands photographes de la Libération, Catherine Tambrin, quelles étaient leurs pattes? Comment ont-ils photographié la Libération quelles étaient leurs places fortes? Parce qu'on se rend compte que c'était parfois aussi déterminé de manière géographique, hein, l'endroit où ils étaient implantés et ce qu'ils photographiaient. Quelques grands noms, Doisneau, Henri Cartier-Bresson, que vous venez de citer, Raymond Depardon. Il y avait aussi Serge de Sazeau. Dans les grands noms qu'on retrouve, qui d'autre?
Il y a Capa.
Il y a Capa. On a
alors, une photo de Capa, bon, et en plus, elle est floue.
C'est un contre-type.
Il n'avait pas de chance. Déjà, ces photos de débarquement ont été frappées de malédiction. Celle-ci est aussi floue.
Celle-ci est un contre-type, très clairement. Je ne sais pas du tout comment elle est arrivée et je ne l'ai pas vue reproduite dans notre exposition. Pourtant, elle devait l'être parce qu'elle était un très grand format, mais je n'en ai pas la certitude.
Mais ça vient aussi que le fond est parti un petit peu aux États-Unis. Là,
je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est... Dans l'expo de 44, on n'indique pas le nom des photographes.
D'accord.
Jamais. Ça ne compte pas. Le nom du photographe ne compte pas. Donc du coup, on a aussi des photographes anonymes et des photographes femmes. On a la comtesse de Douglas, Marcel Dely, Lucienne Chevert. On a des amateurs, de gens dont on n'a absolument aucune idée de leur parcours. Mais parfois, je sais que, puisque nous la conservons encore, l'image originale est un tout petit tirage cranté. qui a ensuite été agrandi. C'est le cas d'une tombe, par exemple, qui se trouvait quasiment sous la tour Eiffel. Et les gens sont en train de regarder cette tombe comme ça, et c'est une image comme ça, amateur, d'une femme. Donc, les photographes... Il y a des grands photographes, mais pas que. C'est ça qui est intéressant.
Mais sur les grands photographes, il y en a où on peut quand même retracer aujourd'hui leur rôle, alors, justement, dans ce témoignage.
On a fait, nous, ce qu'on a. On s'est fait aider par un monsieur qui s'appelle Alain Aymard, qui a pisté absolument tout le parcours du photographe dans les trois journées, en général, de l'insurrection. Et donc, on sait exactement ce qu'il a fait à telle date. Et globalement.
C'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, Henri Cartier-Bresson arrive un tout petit peu sur le tard à ce moment-là, parce qu'il arrive à Paris en vélo. La Libération a déjà commencé. Il faut rappeler que lui était prisonnier entre juin 40 et février 43. Il arrive avec son Leica et on a retrouvé de lui 493 photos de la Libération de Paris, exactement.
C'est un des grands producteurs, parce qu'en fait, il y en a qui n'en font qu'une vingtaine. Suivant que vous avez la possibilité d'avoir du matériel ou pas, vous en faites 20 ou vous en faites 400. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'évidemment, ils n'ont pas de moyens de transport. Vous savez, on ne peut pas bouger dans Paris. Donc, en général, ils font à proximité de l'endroit où ils habitent. Souvent. C'est pour ça que souvent, dans le catalogue, j'indique le lieu de résidence de la personne, parce que ça dit quelque chose sur l'endroit où il fait ses images.
Ou du lieu qu'il choisisse. Doisneau, lui, est envoyé à Ménilmontant. Il n'écoute pas les instructions et il part vers le Quartier Latin.
Voilà. Henri Membré essaye de faire une espèce d'agence, de contrôler les photographes. Et ça ne lui plaît pas trop. Et finalement, il n'en fait qu'à sa tête et il décide de partir.
Justement, sur Henri Membré, à travers lui, est-ce qu'on peut raconter aussi le rôle des agences de photographie? Parce qu'il y a en avait un certain nombre. L'API, l'agence presse Libération FFI, hein, des forces françaises de l'intérieur. Quels ont été le rôle de ces agences sur le traitement de la photographique de la Libération, sachant que beaucoup avaient été aussi entraînés à un moment dans l'histoire de ces agences au service de la propagande allemande?
Toutes les agences, elles travaillent pour la propagande. Donc c'est aussi intéressant de voir comment elles survivent après. Donc il y a une espèce de mainmise, par exemple, sur l'API, très clairement. Henri Membré arrive, réquisitionne et dit « Bon, bah, maintenant, vous allez travailler sur la libération de Paris ». Et il envoie donc tous les reporters et ils ont du matériel. Donc c'est assez compliqué après, puisque ces images, je vous dis, elles ont été faites par des gens qui ont collaboré, en quelque sorte. Alors collaborer, attention, c'est très très compliqué, hein, parce que dès qu'on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est pas aussi clair que ça. Georges Reynal, qui dirige par exemple le service de Vichy, le service photographique de Vichy, est un résistant lui-même. Et on va le voir, parce que quand il va être envoyé en déportation, la propagande va changer. Elle va se durcir en termes d'image. C'est plus du tout la même chose qui va paraître. Donc tout ça est très compliqué. Et c'est ça qu'on raconte, c'est-à-dire qu'on explique que ben voilà, les gens travaillent et qu'il n'y aura pas, contrairement au cinéma, par exemple, d'épuration. C'est pas la même chose. Ça va être à peu près en 1950, tout le monde est quasiment libéré, enfin sorti à ses droits. Il ne reste plus qu'une seule personne qui n'en a plus.
Jean-Noël Jeannonet, qu'est-ce que cette comparaison entre cette exposition de 44 et celle d'aujourd'hui nous dit plus largement de la fabrique de l'image en temps de guerre ?
J'ai envie d'élargir à une comparaison avec un troisième moment, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire 1914-1918. Cela nous renseigne sur la nécessité absolue de savoir qui photographie et comment. Vous évoquiez le livre que les arènes m'ont demandé de faire, de rassembler à partir des photos du journal Excelsior, qui était en première page. Au début, contrairement à vous, on a le nom des photographes. Et puis ça s'arrête en 1917, quand le journal est racheté par le Petit Parisien. On ne sait pas pourquoi. On respectait moins l'identification des auteurs. Mais on retrouve les mêmes questions. C'est-à-dire, quel est le support? Là, ce sont des plaques de verre, et c'est excellent. C'est d'une finesse et d'une précision extrême. On se demande ce qu'il y a pu avoir comme censure ou comme auto-censure. Par exemple, on ne montre jamais de mort, sauf une fois un mort allemand. Ce n'était d'ailleurs pas forcément une interdiction venue des autorités. C'était une sorte de choix que faisaient les photographes eux-mêmes, en sachant probablement que leurs photos ne seraient pas, dans ce cas, publiées. Il y a beaucoup de choses qui sont montrées et qui peuvent nous renseigner à propos des femmes. Par exemple, c'est complètement différent. On montre beaucoup de femmes. Simplement, on les montre évidemment dans des positions traditionnelles. On les voit aussi beaucoup comme infirmières ou comme remplaçant les hommes dans telle ou telle autre condition. Tout ça est frappant. Tout ça a beaucoup à nous dire, non seulement sur ce qu'on montre, encore une fois, que sur ce qui est dans la tête de ceux qui prennent les photographies, avec une réflexion qui, chez eux tous, déjà intègre ce qu'ils peuvent penser de ce que le journal ou l'exposition, dans votre cas, pourra agréer ou ne pas agréer. C'est une sorte de jeu de popée gigogne qui est tout à fait intéressant de décrire.
Catherine Tombrin.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on a été voir qu'a été comment ces images sont sorties tout de suite après. C'est-à-dire en 44-45, on a dépouillé les journaux de l'époque, on a regardé celles qui avaient été sélectionnées, celles qui n'avaient pas été sélectionnées. De même qu'on a regardé les journaux de la Libération pour voir celles qui avaient été sélectionnées et celles qui n'avaient pas été sélectionnées. Et ça, il y a des choses très étonnantes. Par exemple, il y a une des images qu'on met dans la dernière salle où on voit des gamins en train de jouer au camion camouflé. Cette image, a priori, je ne pensais pas qu'elle était sélectionnée, mais dans un journal qui commémore un an après la Libération de Paris, elle est sélectionnée.
Eh bien, je suis frappé du fait que Excelsior, le journal dont je vous parle, en 1916 ou 17, montre aussi des enfants jouant à la guerre. Des plus beaux prétendants qu'ils représentent. Quelquefois, ils ont des sortes de pinces qui expriment ce que pouvait être un bras arraché. C'est assez sinistre. Et néanmoins, on le montre, comme si on voulait inclure les générations ultérieures. Absolument. À l'intérieur de l'image que l'on a envie de donner de la guerre en mouvement.
Justement, Raymond Depardon, quelles traces ces photos ont-elles laissées dans nos mémoires collectives et quelle place elles continuent à y occuper? C'est aussi une des questions que soulève cette exposition. Vous avez des photos de la Libération de Paris, notamment, qui vous ont particulièrement marqué.
Oui, on voit toujours les GI avec des jolies parisiennes, là, des jolies femmes. Enfin, et on voit un peu leur coiffure, leur habit. On voit aussi surtout le général qui descend les Champs-Élysées, là, bien sûr, parce que cette photo, au
le
début, notamment.
44, ouais, à pied.
Quand il descend les Champs. Après, on voit plus tellement grand-chose. On voit un petit peu quelques combattants, effectivement, on a vu là récemment. Mais c'est un peu flou après. Il manquait, en tous les cas, de montrer ces photos à la nouvelle génération. Ça, c'est marrant parce que ça fait toujours très, très vieux. Et en fait, c'est pas vieux. Alors, il y a quelques lieux dans Paris, comme ça, moi, de temps en temps, rue des Feuillantines, par exemple, il y a des endroits comme ça. Ici, était le PC des Forces Françaises Libres, dans ce café. Il y a quelques lieux, mais pas assez. Ouais. Je trouve pas assez. Et je trouve, par exemple, moi qui étais mêlé indirectement, et je vais sortir un livre sur Berlin, là, parce que c'est le 25e anniversaire de la chute du mur. Moi aussi, j'ai été à Berlin en 61-62, dans l'hiver 61. J'ai fait des enfants qui jouent au mur aussi. Donc forcément, les enfants, j'avais 18 ans quand j'ai fait ces photos. Et j'ai eu peur que la ville de Berlin ne fasse pas un devoir de mémoire. Parce que aussi, ils avaient un peu peur du genre de tourisme nazi. Voilà. Moi, je regrette un peu. Ils ont fait 2-3 lieux extraordinaires, notamment le pavillon des terreurs là à Berlin. Et je regrette un peu que on devrait faire. Bon, il y a le musée Carnavalet, il y a un certain nombre de lieux. Plus d'itinéraires comme ça, un peu pour montrer un petit peu de souvenirs comme ça qu'on verrait. Extérieur pour que les gens viennent voir un peu.
Des traces dans des parcours et des traces dans la ville, des scènes de liesse qu'évoquait Raymond Depardon à cette figure tutélaire du général de Gaulle.
On n'a pas tellement de figures de liesse en fait, curieusement.
Assez peu, très peu. En revanche, on peut dire aussi que la mort y est photographiée.
Très photographiée.
Et elle est présente dans l'exposition.
Très présentée en 44.
Et pour Luxembourg, il y a quand même des plaques en disant les trembles.
Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est que pour préparer cette exposition, on a travaillé avec l'Institut historique allemand. Ça, c'est vraiment intéressant de signaler, ainsi qu'avec le musée de la Résistance nationale. Et on a fait cette exposition et le catalogue en 3 langues. Et c'était vraiment intéressant parce que voir l'histoire avec eux, revoir, faire cette chronologie commune, parce qu'on commence dans le catalogue avec une chronologie qui commence en 1933, pour voir là aussi de quoi on se libère. Ça a permis vraiment de voir les choses différemment.
Ben c'est le problème de Radour. Qu'est-ce qu'on va faire de Radour, quoi. Voilà, la question s'est posée un petit peu. Parce que il s'effondre de plus en plus et s'écroule. Donc qu'est-ce qu'on fait de Radour, voilà. C'est un petit peu le problème de la mémoire, un petit peu. C'est un problème complexe. Mais moi, je trouve qu'il y a... Alors bien sûr, maintenant, aujourd'hui, il y a tellement des touristes, la ville est formidable et tout, mais ça serait bien d'y avoir encore... Il y a ces petites plaques un peu, et moi, il manque un petit peu, quelque part, des souvenirs plus récents, ou même carrément, où a été fait ces photos de Cartier-Bresson, Doisneau, voilà, ici a été fait la photo de Cartier-Bresson, carrément. Comme du land art, comme quelque chose de ludique, quoi, voilà. Je pense que c'est un petit peu... C'est une réflexion de photographe que j'ai, moi.
On pourrait d'ailleurs joindre ces photos à des textes littéraires d'écrivains évoquant ce lieu précis. Mais voilà une idée pour les éditeurs. Voulez-vous vraiment de parler de façon suivre ensemble
pour les prochains centenaires. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle que l'exposition Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé retrace celle de 44 comme celle de 2014 puisqu'elle lui fait écho les derniers jours puis les premiers jours de la libération, de l'annonce de la trêve, aux affiches du dernier couvre-feu, du départ des Allemands à la reddition de la commandante Tour jusqu'au point de rupture, le fameux tous aux barricades du résistant Henri Rolle Tanguy le 22 août et les débuts de l'insurrection, puis l'accueil fait aux soldats et le défilé sur les Champs-Élysées du général de Gaulle en tête le 26 août 1944 entre autres, et nous montre aussi quelques images de l'après-libération, le deuil, le retour des prisonniers et la reconstruction. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine exposition. Tout ça se retrouve dans le catalogue de l'exposition. qui s'appelle Paris
libéré, Paris photographié, Paris exposé aux éditions Paris Musée.
Merci beaucoup de faire tout le travail à ma place, Catherine. Merci à vous, Jean-Noël Jeannonnet. Je rappelle aussi le titre de vos deux ouvrages, Jour de guerre avec Jeanne Guérou, qui est paru aux éditions Les Arènes, et puis La Grande Guerre, si loin, si proche, réflexion sur un centenaire, c'est paru au Seuil. Merci à vous, Raymond Depardon. Très bel après-midi à tous. Toutes les infos concernant la grande table d'été sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pouvez également nous laisser vos commentaires, réécouter cette émission ou la podcaster. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, Michel-Ange Vinti et Luc-Jean Rideau qui ont réalisé cette émission, Clémence Marie qui l'a préparée avec Claudia Prolongeau et Adrien Nazelli. Attaché de production, Daphné Abgral et Claire Poinsignon.